Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 29 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington, au micro Bagassi Koura et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, MSF suspend ses activités à Nanga Bogila, dans le nord-ouest de la RCA, suite à la mort d'au moins 16 personnes, dont 3 humanitaires ce week-end. Le secrétaire d'État américain John Kerry n'est pas favorable à une modification de la constitution en RDC pour un autre mandat du président Kabila.
J'espère que Kabila verra qu'il faut tenir par la constitution. Il faut soutenir ceux qui ont la loi.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déploré la condamnation à mort hier de plusieurs partisans des frères musulmans en Égypte. En Afrique de l'Ouest, les experts tentent toujours d'enrayer l'épidémie d'Ebola, mais pendant ce temps, des survivants et leurs familles se disent stigmatisés.
Un hôpital de Conakry où 3 personnes sont mortes de l'Ebola a été contraint de fermer car personne n'osait entrer dans le bâtiment.
Ces sujets et bien d'autres dans ce magazine, mais n'oubliez pas, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
République centrafricaine, au moins 16 personnes, dont 3 humanitaires de Médecins sans frontières, ont été tuées par des ex-rebelles présumés de la Séléka dans l'attaque d'un hôpital à Nanga Bogila, dans le nord-ouest du pays. Idriss Fall a joint Sylvain Grou, porte-parole de MSF à Bangui.
Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'un groupe d'hommes armés est rentré dans notre base, qui se retrouve en fait au sein même de l'hôpital de Bogila. Et ils sont rentrés pour faire du braquage, voler des biens. Soudainement, alors qu'on avait une réunion avec des gens de la communauté, donc des leaders communautaires, chefs de village, chefs de groupement, etc., ils étaient environ une quarantaine assis tous devant le service de consultation externe. Un des hommes armés a commencé à tirer sur ce groupe d'hommes-là. Et à la fin, on dénombre 16 morts, 16 victimes, dont 3 collègues nationaux de Médecins sans frontières. Et en surplus, on a 6 blessés qu'on a pris en charge également à l'hôpital.
Est-ce qu'on sait qui sont les assaillants?
On parle de gens qui sont associés à l'ex-Séléka.
Et est-ce qu'il n'y avait pas des soldats de la MISCA ou de l'opération Sangaris dans les parages?
Non, malheureusement, il n'y avait aucune force internationale dans les alentours.
Sylvain Grou, porte-parole de MSF à Bangui. Notons qu'à la suite de cette attaque, MSF a suspendu ses activités à Nanga Bogila. L'organisation humanitaire dit avoir évacué son personnel dirigeant de la localité.
Une éventuelle partition de la Centrafrique n'est pas la solution que privilégient les États-Unis au conflit entre musulmans et chrétiens de ce pays. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire d'État américain John Kerry dans une interview exclusive au service francophone de la Voix de l'Amérique à la veille de sa tournée africaine. Extrait de cet entretien.
Enfin, c'est très difficile, vous savez. Moi, j'ai pas une réponse magique. Je veux bien visiter, je veux parler avec tous ceux qui sont chargés de faire les décisions. On verra si on peut aider de plus avec les forces militaires qui peuvent enfin prouver que le gouvernement peut fonctionner. À ce moment, les gens ne croient pas qu'on peut trouver une solution. C'est très difficile. Mais moi, je veux bien parler avec tout le monde, je verrai. Moi, je n'ai pas une idée à ce moment, mais on ne veut pas diviser, non. Ce n'est pas la solution préférable.
Voilà le chef de la diplomatie américaine John Kerry, entretien réalisé par Jacques Aristide au département d'État ici à Washington.
Soudan du Sud, selon l'ONU, des affrontements opposent les forces gouvernementales aux troupes rebelles dans plusieurs villes du pays. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud rapporte que la ville de Mayom, dans l'état d'Unity, a changé de main 2 fois au cours des derniers jours en raison des combats. Selon les dernières informations, cette ville serait sous le contrôle des forces gouvernementales, mais l'ONU indique que les combats y continuent.
Les autorités éthiopiennes ont arrêté 9 journalistes et blogueurs accusés de collaboration avec une organisation étrangère. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Interpellés la semaine dernière, les 6 blogueurs et 3 journalistes ont comparu dimanche. Ils sont accusés de travailler avec un groupe étranger et d'avoir accepté d'utiliser les médias sociaux pour inciter les Éthiopiens à la violence. La journaliste Tion Girma était présente lorsque 9 hommes en civil et 2 policiers en uniforme était venu arrêter son voisin et confrère Tesfalem Weldeyes. Il n'est pas un activiste, c'est un journaliste professionnel. Je le connais depuis 10 ans, nous avons travaillé ensemble. Membre d'un collectif dénommé Zone 9, les blogueurs avaient suspendu leurs activités il y a quelques mois, se disant victimes de harcèlement, mais avaient fait part la semaine dernière de leur intention de les reprendre. Quelques 40 militants du Parti Bleu, un parti d'opposition, ont été arrêtés la semaine dernière également pour une manifestation qu'ils projetaient d'organiser dimanche. 12 ont été relâchés, y compris leur président Yilkal Getnet, mais ce dernier affirme que 28 de ses partisans sont toujours aux mains de la police.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déploré la condamnation à mort de plusieurs partisans des Frères musulmans, un parti interdit en Égypte. Ils sont 683 à avoir été condamnés à mort hier. Ils sont accusés entre autres crimes de violence et du meurtre d'un agent de police. La peine a été prononcée par le tribunal de Minya, à environ 200 km au sud du Caire. Dans un communiqué publié lundi, M. Ban a déclaré que ces verdicts ne répondent pas aux normes d'équité d'une justice impartiale. Les États-Unis se sont également profondément troublé par ce verdict qui, selon la Maison-Blanche, défie même les normes les plus élémentaires de la justice internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces russes ne vont pas envahir l'Ukraine. C'est du moins l'assurance donnée par le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, à son homologue américain Chuck Hagel. D'après le Pentagone, les deux ministres se sont parlé au téléphone lundi au sujet des intentions de la Russie. Un porte-parole du Pentagone a déclaré que Hagel a souligné combien la situation était dangereuse. Hagel a aussi dit que l'Ukraine a le droit de préserver le droit et l'ordre à l'intérieur de ses frontières. Il a rappelé que la Russie court le risque d'être davantage isolée si l'agression de l'Ukraine continue.
En Irak, plus de 50 personnes ont été tuées dans une série d'attentats suicides au moment où les forces de sécurité ont commencé à voter dans le cadre des premières élections dans le pays depuis le retrait des troupes américaines fin 2011. Jean-Roger Bion.
Les assaillants portaient des uniformes de la police. Ils ont attaqué les bureaux de vote autour de Bagdad et au nord de la ville. Des bombes placées en bordure de route ont par ailleurs ciblé des convois militaires et de police, faisant des dizaines de blessés. Dans l'attaque la plus meurtrière, un kamikaze s'est fait exploser au cours d'un rassemblement politique kurde dans la ville de Kanakin, au nord-est de la capitale. Bilan, 30 morts et 50 blessés. Une vidéo du président irakien Jalal Talabani, qui a voté en Allemagne, où il est hospitalisé pour un traitement médical, était en train d'être projetée. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais la minorité sunnite est suspectée en raison d'attaques précédentes dirigées contre la majorité chiite du pays et les forces de sécurité. Le vote anticipé a débuté hier lundi pour ceux qui ne pourront le faire mercredi. Il s'agit des forces de sécurité, des personnels de prison et d'hôpitaux, ainsi que les patients et les détenus.
Aux États-Unis, les urgentistes étaient à la recherche hier de survivants de tornades qui ont tué au moins 17 personnes dans le centre et le sud du pays. Hier, la tempête qui a continué son chemin a ravagé la région de Tupelo dans le Mississippi, endommageant des centaines de maisons. Elle a aussi fait tomber des lignes électriques et renversé des arbres. Les autorités disent ne pas avoir eu vent de cas de décès ou de blessés.
Et puis toujours aux États-Unis, l'indignation au sujet des propos racistes attribués aux propriétaires des Los Angeles Clippers éclipse les éliminatoires du championnat de basketball nord-américain. Darina Naidoo.
La NBA cherche à savoir si la voix entendue dans un enregistrement publié sur Internet est bien celle de Donald Sterling. Dans l'enregistrement en question, une voix masculine demande à la petite amie de Sterling de ne pas publier ses accointances avec des Noirs. La même personne demande aussi à la jeune femme de ne pas publier des photos de personnes noires sur sa page Instagram et de ne pas emmener les Noirs à ses matchs. Jusque-là, Sterling n'a pas nié que la voix est la sienne. La NBA a prévu une conférence de presse cet après-midi pour aborder la question. Les critiques à travers le pays demandent des sanctions sévères, y compris forcer Sterling à vendre son équipe. Ce n'est pas la première fois que Sterling s'est mis en cause pour une histoire de racisme. En 2009, ce magnat de l'immobilier avait payé une somme record de plus de 2,5 millions pour le règlement d'une affaire fédérale de discrimination raciale. À l'époque, on lui reprochait d'exclure les locataires noirs et hispaniques de ses propriétés à Los Angeles.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura. Revenons sur cette interview exclusive que le secrétaire d'État américain John Kerry a accordée à la Voix de l'Amérique. Dans l'extrait que nous vous proposons, il revient sur la possibilité de modifications constitutionnelles qui permettraient éventuellement aux présidents burundais et congolais, Pierre Nkurunziza donc et Joseph Kabila, de se représenter aux élections présidentielles. Pour John Kerry, cela serait mal avisé.
On s'inquiète un peu, oui, certainement, mais j'espère que Kabila verra qu'il faut tenir par la Constitution. Il faut soutenir ceux qui ont la loi. Et j'espère qu'il verra qu'à ce moment, ce ne sera peut-être pas avisable d'essayer de changer ça pour se servir lui-même. On verra. J'aimerais bien lui parler de ça.
Comment Washington perçoit le rôle du Rwanda à l'est du Congo? La région est toujours très instable.
Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous disiez le rôle. Enfin, nous voulions bien qu'il y ait la paix, quoi. Et il faut trouver une façon de vivre ensemble, sans oublier l'histoire qui s'est passée là. Il y a des temps que je pense que ou Rwanda ou la République démocratique du Congo, qu'il oublie l'histoire. C'est pas assez récent dans ses choix. Il paraît que l'histoire qui s'est passée il y a quoi, 15 ans, quelque chose comme ça maintenant, qu'ils ne sont pas assez sensitifs dans les décisions à ce moment de ne pas répéter. Et moi, j'ai peur de temps en temps que ça tombe.
Mais qu'est-ce que Washington peut faire?
On essaie avec notre envoyé, avec le sénateur Feingold, avec les États-Unis. Il faut travailler pour faire changer la situation sur la terre. Et à ce moment, on essaie de faire ça.
Voilà, c'était le secrétaire d'État américain John Kerry à la veille de son voyage en Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur Internet à www.lavoixdelamerique.com.
Au Nigeria, près de 200 jeunes filles sont toujours portées disparues 2 semaines après leur enlèvement. Des militantes féministes veulent maintenant organiser une marche à Abuja pour exiger leur libération. La question de la sécurité va certainement peser sur l'élection présidentielle l'année prochaine, Michel Joseph.
Pour beaucoup de femmes dans le nord du Nigeria, le fait que le gouvernement n'ait pas pu faire libérer les jeunes filles enlevées depuis 2 semaines est un affront. Les militantes féministes ont annoncé une marche d'1 million de femmes à Abuja. Aïchatou Ngoulde est membre de l'association Baobab pour les droits des femmes à Maïdougouri, fief de Boko Haram. Nous avons un leader national qui est censé être le champion de la protection du pays tout entier. Mais depuis que cette chose s'est passée, nous n'avons jamais entendu notre président dire à la nation qu'il va déployer notre force aérienne. Et la frustration est de plus en plus grande. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ce lycée n'était pas mieux protégé au départ. Ayo Onolale, 30 ans, étudie les sciences politiques à l'université d'Abuja.
It's panicking because they don't know what's happening to them right now.
C'est la panique, parce que personne ne sait ce qui est en train d'arriver à ces jeunes filles kidnappées. Naturellement, elles pourraient être violées. Omolale, qui ajoute que sauver ces filles est plus complexe qu'une seule volonté politique, parce que les islamistes peuvent faire d'elles des esclaves sexuels, des cuisinières ou porteuses, et même les utiliser comme boucliers humains. Quoi qu'il arrive, la sécurité et les enlèvements risquent de s'inviter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il n'y a officiellement aucun candidat déclaré pour le moment, mais Goodluck Jonathan pourrait briguer un autre mandat. Clement Nwanko dirige un centre d'études politiques à Abuja. La responsabilité immédiate sur les questions de sécurité est entre les mains du président et des chefs militaires. Et il doit informer les gouverneurs et aussi informer les Nigérians des mesures qu'il prend pour faire face aux questions sécuritaires. Mais les jeunes, plus désabusés, estiment que la faute ne revient ni au parti au pouvoir, encore moins à l'opposition, mais à tous les leaders nigérians. Toby Obanisola, 20 ans, étudiant en philosophie, affirme qu'il doit y avoir une connexion entre l'élite et Boko Haram, car les islamistes ont un équipement dernier cri comme de l'artillerie lourde et des camions. Pour lui, l'opposition, comme ceux qui sont au pouvoir, sont tous corrompus. Et s'il doit voter en 2015, ce ne sera pas pour ces deux catégories.
En Afrique de l'Ouest, les experts tentent toujours d'enrayer l'épidémie d'Ebola. Et pendant ce temps, des survivants et leurs familles se disent stigmatisés. Certaines malades, certaines personnes sont bien accueillies après leur guérison, mais beaucoup sont rejetés à cause de la peur de la contagion, Nathalie Barge.
Les proches de Joseph Taylor se sont réunis dans le comté de Lofa, au Liberia, la semaine dernière pour accueillir cet homme de 48 ans qui a été faussement soupçonné d'être infecté par le virus Ebola. Son épouse est décédée ce mois d'avril après avoir contracté la maladie. Les gens voulaient me lapider, mais j'ai dit que je résisterais et que j'y arriverais. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Vous pouvez être près de moi, vous êtes mes amis, je pardonne à tout le monde. Lors d'une cérémonie, le ministère de la Santé du Libéria a présenté un certificat médical à Taylor, confirmant qu'il n'est pas atteint par le virus. Le médecin-chef du Libéria, Bernice Dan, estime que la discrimination dont sont victimes les patients et leur entourage est un sérieux défi. Ce qui lui est arrivé à beaucoup d'autres, dans d'autres communautés. Aujourd'hui, nous pouvons tous savoir que ceux qui entrent en contact avec des personnes infectées peuvent effectivement être en sécurité, vivre dans la communauté et vaquer à leurs occupations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola ne peut être transmis que par contact direct avec une personne infectée. Mais beaucoup de gens, comme Mariam Camara, commerçante au marché de Conakry, sont toujours réticents.
Pour un départ, on nous a dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède. Après, entre-temps, on a encore appris qu'il y a des personnes qui sont guéries de cette maladie. Mais vraiment, moi, personnellement, même s'il y a des personnes qui sont guéries de cette maladie, je me méfierais. Je pense que vraiment, il faut s'en méfier. Une maladie, par exemple, qui est en train de tuer des gens n'importe comment, et on dit encore que cette maladie, on trouve des remèdes pour ça, c'est pas trop rassurant, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier.
Un hôpital de Conakry où 3 personnes sont mortes de l'Ebola a été contraint de fermer car personne n'osait entrer dans le bâtiment. Des agents humanitaires font du porte-à-porte à Conakry pour expliquer à la population comment le virus se transmet et se propage.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les autorités saoudiennes ont annoncé qu'une dizaine de nouveaux décès liés au coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS ont eu lieu donc ce week-end. 339 personnes atteintes du MERS sont confirmées en Arabie saoudite où cette maladie mystérieuse a déjà fait 102 morts. On ne connaît pas le mode de transmission et encore moins ce qu'est le coronavirus. Idriss Fall a joint Tariq Yasserevich de l'Organisation mondiale de la santé à Genève.
Le coronavirus dont on parle à ce moment, ça fait partie de la famille des virus coronavirus qui causent chez l'homme des maladies respiratoires et ça peut aller jusqu'au SARS qu'on a vu il y a une dizaine d'années. Donc c'est une famille de virus qui est connue, mais c'est un virus qui est nouveau et dont on ne connaît toujours pas beaucoup de caractéristiques, ce qui nous fait être inquiets par rapport à cette apparition dans les pays du Moyen-Orient.
Mais comment ça se manifeste lorsqu'on est malade?
Les symptômes incluent le problème de respiration, le tout, donc le virus provoque aussi une pneumonie. Il faut vraiment noter que les personnes qui ont déjà des problèmes médicaux, donc qui ont déjà des maladies chroniques, sont sujets à des symptômes beaucoup plus graves.
Et est-ce qu'on sait comment est-ce que la maladie est transmise?
Pour le moment, on ne sait pas. Et c'est vraiment la grande question, comment le virus passe de la source première de virus, qui est probablement dans le monde animal, vers l'homme. Après, on sait que le virus se transmet de l'homme à l'homme par le biais d'un contact. Donc, ce qu'on a pu voir, ce qu'on doit maintenant essayer de comprendre, c'est comment le virus passe du monde animal vers l'homme. Et on sait déjà que le virus a été retrouvé dans les dromadaires et les chameaux. Comment il passe chez l'homme? Et c'est uniquement par ce savoir qu'on pourra donner des conseils et on pourrait prendre des mesures pour arrêter la transmission.
Et qu'est-ce qui peut être fait pour contenir la maladie en Arabie Saoudite?
En attendant de savoir plus sur le mode de transmission de virus, il faut prendre les mesures de prévention d'infection ordinaires et habituelles qui se font surtout dans les établissements de santé. On conseille aux pays aussi qui ne sont pas directement touchés de tester les gens qui ont une histoire de voyage dans la zone touchée s'ils présentent des symptômes qui peuvent être donc liés à cette maladie de coronavirus.
Voilà, c'était Tariq Djassarevich de l'Organisation mondiale de la santé à Genève.
Voilà, vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. Hein. En Europe, la Ligue des champions reprend ses droits ce soir.
Avec un tout petit but d'avance, le Real de Madrid se déplace chez le Bayern de Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des champions ce soir. Demain, dans l'autre demi-finale, l'Atlético Madrid affronte Chelsea.
Et puis Nicolas, retour sur le tirage au sort des éliminatoires de la CAN au Maroc.
Depuis dimanche, les nations africaines connaissent leur sort pour espérer participer au tournoi continental l'année prochaine. Dans le groupe F, le Niger fera face au Cap-Vert, la Zambie et l'un de ces quatre pays issus des barrages, Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique ou Soudan du Sud. Mais le MENA pourrait bien perdre l'actuel sélectionneur Gernot Rohr. Le technicien français affirme à la Voix de l'Amérique qu'il ne renouvellera pas son contrat si la fédération ne lui paie pas ses 6 mois d'arriéré de salaire. On l'écoute.
Mon contrat s'arrête le 31 août et comme il y a des soucis de règlement de salaire, eh bien je ne suis pas du tout sûr de prolonger mon contrat, même si à la fédération m'a demandé de bien vouloir prolonger de 5 mois. Donc il y a des petits soucis à régler avant. En tout cas, je me suis attaché à cette équipe du Niger, puisque cette équipe du Niger, depuis quelques temps, pratique un bon football. On a des jeunes joueurs qui sont arrivés. On a reconstruit une équipe qui tient la route et qui a certainement ses chances pour se qualifier pour le Maroc 2015.
Aujourd'hui, combien de mois d'arriéré de salaire avez-vous?
6 mois d'arriéré et début mai, ça va faire 7 mois. Mon assistant, Jackie Bonnevet, est dans la même situation. Donc voilà, ça s'est accumulé. Et maintenant, la balle est dans le camp du ministère des Sports nigérien. Voilà, nous a promis de corriger ça, mais pour le moment, rien n'est venu.
C'était Gernot Rohr, le sélectionneur du Niger, joint en France. Enfin, Bagassi, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Oui, hier soir, il y avait 3 matchs au programme. Miami s'est qualifié en remportant son 4e match face à Charlotte, 109-98. Atlanta a battu Indiana 107-97 et tard dans la soirée, San Antonio a eu raison de Dallas 93-89. Voilà, c'est l'heure de passer à la musique maintenant avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Salut Bagassi. Avec Jay-Z, Beyoncé forme l'un des couples de stars les plus riches. Mais même sans lui, hein, elle reste l'une des femmes les plus influentes de la planète. C'est le magazine Time qui l'affirme en l'inscrivant parmi les personnalités les plus importantes de l'année. Un accomplissement de plus pour Queen Bee. Avec des chanteurs africains, elle a chanté « I miss you ».
Alors, chaque année, depuis 1999, Time dévoile sa liste des personnalités les plus influentes, divisée en 7 catégories, militantisme, art, business, politique, religion, sport et science. Elle compte au total 100 noms. Beyoncé figure bien sûr sur la liste.
Exactement, Bagassi, a une occasion de plus pour la famille Carter, je veux dire Jay-Z et Beyoncé, de célébrer encore cet événement, pourquoi pas.
Beyoncé, I miss you. Merci Roger.
De rien Bagassi, bonne journée.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel. C'est notre que s'achève le monde aujourd'hui. Anna Alberson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Bagassi Koura au micro. Merci de rester en notre compagnie.